Et merci d'avoir répondu à l'appel de la vie plus belle. Ça faisait envie, c'est vrai. Alors, une première petite annonce. Il y a dans la salle un photographe qui vient pour faire un reportage pour La Croix sur la façon dont les paroisses se saisissent du thème du débat sur la fin de vie. Donc si jamais certains d'entre vous ne souhaitaient pas être photographiés pour La Croix, n'hésitez pas à lever la main pour qu'ils vous repèrent. C'est bon. Allez, c'est bon. Donnons-nous du temps pour que vous soyez... Je crois qu'Agatha est d'accord, mais... Agatha,
ça va.
Ça va. Alors,
on cache la mort comme si elle était honteuse et sale. On ne voit en elle qu'horreur, absurdité, souffrance inutile et pénible, scandale insupportable, alors qu'elle est le moment culminant de notre vie, son couronnement, ce qui lui confère sens et valeur. Elle n'en demeure pas moins un immense mystère, un grand point d'interrogation que nous portons au plus intime de nous-mêmes. Je sais que je mourrai un jour, bien que je ne sache pas comment ni quand. Il y a un lieu tout au fond de moi où je sais cela. Je sais que je devrai un jour quitter les miens, à moins que ce ne soit eux qui me quittent d'abord. Ce savoir le plus profond, le plus intime, est paradoxalement ce que j'ai en commun avec tous les autres humains. C'est pourquoi la mort d'autrui me touche, et elle me permet d'entrer au cœur de la seule et vraie question : quel sens a donc ma vie ? C'est en ces termes qu'il y a près de 30 ans maintenant, Marie de Henzel, psychologue clinicienne, ouvrait son ouvrage « La mort intime », fruit de nombreuses années passées aux côtés de personnes en fin de vie. Elle livre au fil des pages l'expérience transformante qu'elle a vécue à leur contact. Plus récemment, dans le recueil « Vivre avec l'invisible », elle revisite encore la place de la mort en nous renvoyant à ce moment crucial avec les questions suivantes. Avons-nous assez aimé ? Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact, le poids et la valeur des mains, des yeux, des corps ? Savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse ? Il est temps, avant de disparaître dans le tremblement d'une terre sans espoir, d'être tout entier et définitivement amour, tendresse, amitié, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il faut jurer de ne plus songer qu'à aimer, aimer et ouvrir l'âme et les mains, regarder avec le meilleur de nos yeux, serrer ce qu'on aime contre soi, marcher sans angoisse, en rayonnant de tendresse. J'ai voulu introduire ce cycle de nos trois soirées par ces citations un petit peu provocantes, car elles nous situent d'emblée au cœur de ce que nous sommes appelés à vivre et expérimenter. Sans injonction, nous voilà prêts à ouvrir nos intelligences et nos cœurs à ce mystère, non pas tant de la mort que de la fin de vie. Car vous me pardonnerez ce pléonasme que j'emploie à dessein, tant que l'on n'est pas mort, on est vivant. Oui, résolument, nous sommes tournés vers la vie, et les catholiques parmi vous ont pu célébrer dimanche dernier l'entrée en avant qui oriente une nouvelle fois notre regard vers la venue du Sauveur en qui nous sommes appelés à reconnaître le chemin, la vérité et la vie. Toute détresse, toute souffrance, tout deuil nous rappelle en creux que nous sommes faits pour la vie. Dès le mois de septembre, nous avons voulu, avec le conseil pastoral de la paroisse Saint-Christophe de Javel, permettre la réflexion qui s'initie ce soir. Il me faut dire, avant de céder la parole à Agatha Zielinski, quelle a été notre perspective et inversement ce que n'est pas notre démarche. Comme pasteur d'une communauté, il m'a semblé de ma responsabilité de permettre à ceux qui le souhaiteraient de se former sur les questions relatives à la fin de vie, afin de ne pas être seulement livré aux analyses médiatiques et politiques les plus bruyantes. Nous le savons, le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Nous sommes souvent pauvres et démunis pour aborder ces questions ultra-sensibles et affectives de la fin de vie, tant nous sommes renvoyés à notre propre expérience et à notre propre finitude, comme le rappelait Marie de Henzel. Il nous faut accepter la complexité. C'est pourquoi il nous a semblé important de ne pas plonger d'emblée dans des témoignages, mais de se donner les moyens de disposer des concepts nécessaires à une juste réflexion. Distinguer, clarifier, préciser. Ce sera l'objet de la rencontre de ce soir qui conditionne à mes yeux la saine réception des soirées à venir. La semaine prochaine, nous prendrons le temps de visionner un long métrage réalisé au sein même de la maison médicale Jeanne Garnier, unité reconnue de soins palliatifs. Nous prolongerons la soirée en dialoguant avec le mari d'une personne qui a été accompagnée jusqu'à la mort dans cette maison médicale. L'épreuve de la Pâque, du passage à vivre, n'est jamais une aventure purement personnelle, elle engage toutes nos relations. Enfin, le 14 décembre, nous accueillerons Antoine Dabundo, journaliste au journal La Croix, qui, après nous avoir exposé les enjeux législatifs à venir, animera une table ronde où se côtoieront médecins, bénévoles d'aumônerie et membres d'associations laïques visant à accompagner des personnes en fin de vie. Je dois aussi vous dire ce que n'est pas, dans son intention, ce cycle de soirées qui vous est proposé. Ce n'est pas un lieu de lobbying en vue de s'opposer à quelque projet de loi. Ce n'est pas de mon ressort ni de ma mission. En revanche, mon souci est de faire en sorte que demain, il y ait des hommes et des femmes capables de dire avec rationalité et cœur la beauté de la vie, quand bien même elle serait finissante. Plus encore, je souhaite qu'il y ait des hommes et des femmes pour tenir la main de ceux qui nous précéderont sur les rives de la vie éternelle. J'ai bien conscience, et des paroissiens se sont chargés de me le rappeler, que le sujet n'est pas spontanément riant. Certes, il est grave, mais pas triste. Car je veux croire que dans ce temps qui nous conduit vers la nativité, nous saurons discerner dans nos soirées et nos échanges une douce lumière qui lève. C'est mon souhait, en tout cas, pour chacun de vous. Je cède la parole maintenant à Marie-Christine Vidal, qui va nous présenter notre intervenante du jour, non sans avoir salué particulièrement la présence parmi nous ce soir de quatre Xavier de la communauté de Jeanne Garnier, à qui ces soirées doivent beaucoup. Soyez profondément remerciés et seuls. Bonne soirée à tous.
Quand la personne ne communique plus, quand on la considère comme un légume, quelles sont nos ressources pour tenir avec elle une commune humanité ? Il y a un mois, Agatha Zielinski, c'est ainsi que vous présentiez sur Instagram le contenu de votre dernier livre intitulé « La perte de l'évidence humaine, phénoménologie de la relation en situation extrême ». De fait, depuis longtemps, vous travaillez sur le sujet de la vulnérabilité. Vous affirmez quel est le fond commun d'humanité, à partir de quoi nous entrons en relation. Docteur en philosophie, ancien élève de Normale Sup, professeur au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris, vous vous intéressez aux problèmes d'anthropologie philosophique et d'éthique de la santé. Vous questionnez notamment la relation de soins dans les situations extrêmes aux confins de la vie et de la mort. La vulnérabilité rejoint aussi vos engagements. Vous êtes membre du conseil d'administration de la SFAP, Société française d'accompagnement en soins palliatifs. Vous êtes bénévole en soins palliatifs et vous êtes religieuse Xavière. Vous vivez à Créteil, en communauté, La communauté est sans doute aussi un lieu d'observation et d'expérimentation des vulnérabilités. Enfin, parmi vos hobbies, il y a la photo. Qui suit le compte de la mystérieuse Xavier Agatha sur le réseau social Instagram y est alimenté régulièrement en photos très graphiques, jouant sur les ombres et la lumière et dénotant un regard original sur le monde. Votre regard et votre parole sur le monde et notamment sur la fin de vie nous intéressent. Nous attendons que vous nous éclairiez sur trois concepts en jeu dans le débat sur la fin de vie qui sont autonomie, dignité, solidarité. À vous la parole.
Merci. Ça marche ?
Oui.
Très bien. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci d'être là pour un sujet qui, effectivement, n'est pas forcément très riant, comme disait le père Emmanuel, et peut-être encore moins riant à cette heure-ci de la journée. Parce que vous exposez quand même à écouter une prof de philo. Hein. Vous mesurez un peu... Non, ne partez pas. Ça va bien se passer. Donc, comme le disait Marie-Christine Vidal à l'instant, effectivement, j'enseigne la philosophie au département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et tout ce que je peux vous raconter sur ces sujets-là, je l'ai vraiment puisé dans mon expérience de bénévole en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. Donc oui, ça va être de la philosophie, mais oui aussi, ça vient de rencontres. Tout ce que je vais vous raconter, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est aussi... nourri de visages de patients, de paroles, de silences, de ma propre vulnérabilité comme accompagnante quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas quoi faire. Ça fait partie de l'expérience qui est globalement heureuse. Alors voilà, pour essayer d'avoir quelques petits repères dans ces débats qui touchent aux questions de la fin de vie, qui sont vraiment d'actualité, je vous propose de regarder d'un peu plus près trois termes qui reviennent beaucoup dans ce débat. Et juste pour vous donner quelques éléments de contexte, vous savez que le président Emmanuel Macron a convoqué ce qui s'appelle une convention citoyenne sur la fin de vie. Si j'ai bien lu ce très bon journal de La Croix, les membres de ce comité ont été tirés au sort et devraient normalement commencer leurs travaux demain. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. Et ces citoyens qui ont été tirés au sort doivent réfléchir et essayer de répondre à la question suivante. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie, donc actuel, est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devrait-il être introduit ? Alors, cette question qui peut paraître un peu alambiquée comme ça au premier regard, cette question, elle a la décence de ne pas poser frontalement « Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie et ou le suicide assisté ?» ce qui est néanmoins le fond de l'affaire. Je suppose que tout le monde l'aura repéré. Alors, cette réflexion... qui est vraiment une réflexion de citoyens, c'est-à-dire pas juste les citoyens qui ont été désignés à cet effet, mais qui nous concerne tous en tant que citoyens. La question, c'est comment nous éclairer. Alors, vous avez cette série de soirées, il y a des tas de lectures à faire, si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous indiquer des auteurs, des articles. Et pour nous éclairer, il y a aussi le Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, qui s'est auto-saisi de cette question, enfin pas de la formulation telle qu'elle est présentée, mais qui s'est demandé est-ce que voilà, on a des lois qui sont assez bien faites, mais est-ce qu'elles suffisent à répondre à toutes les situations ? Le Comité consultatif national d'éthique a publié en septembre, octobre, je ne sais plus, tout récemment en tout cas, un avis sur le sujet, l'avis numéro 139, qui s'intitule donc « Question éthique ». Relative aux situations de fin de vie, deux points, autonomie et solidarité. Et voilà, la tâche qu'il se donne, c'est de réfléchir sur comment concilier le devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de l'autonomie de la personne. C'est une bonne question, en fait. Ça touche à plein de sujets. Hein. C'est comment tenir ensemble le bien commun et puis en même temps, comment respecter les choix individuels. Quand je dis c'est mon choix ou je veux ceci, je veux cela. Comment les tenir ensemble? Comment ne pas opposer le collectif à l'individuel? La question est bien posée. Il y a juste un petit truc qui alerte, quand on connaît un petit peu les travaux précédents du Comité consultatif national d'éthique, qui, par exemple, en 2018, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, 2018, c'était les états généraux de la bioéthique. Donc, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de réfléchir, de débattre avec d'autres, c'était la question de la procréation médicalement assistée, des choses comme ça. Et donc en 2018, un avis numéro 129 du Comité consultatif national d'éthique disait que la bioéthique à la française, elle est fondée sur un triptyque. Et ce triptyque, c'est dignité, liberté, solidarité. Vous voyez le truc entre le 129 et le 139? Il y a un mot qui disparaît.
Dignité.
Alors on va voir ce qui devient ce mot et pourquoi il disparaît. Alors la dignité, je vais d'abord le prendre dans un sens large et puis on va revenir à notre situation présente. Il y a un texte qui est bien connu, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui parle de la dignité et qui en parle, vous voyez, dès le préambule, hein, dès la première phrase du préambule de la Déclaration de 1948, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, etc., etc. L'adjectif est capital. Ça veut dire quoi, inhérent? Bah, allez-y, hein, parlez, parce que moi j'ai l'habitude d'être en mode interactif, alors n'hésitez pas. Qui fait partie de l'être humain. Mais qui fait partie, mais avec un petit accent en plus. Qui fait partie, je ne sais pas, par exemple, je peux dire je fais partie d'un club de foot, mais ce qui n'est pas vrai. Hein, mais... Intrinsèque, c'est-à-dire ça fait partie, mais on ne peut pas l'enlever. Inhérent, ça veut dire ça. Ça ne peut pas être enlevé. On ne peut pas le retirer, on ne peut pas l'ôter. 1948, c'est juste... Ah, c'est sympa, merci. Ma vulnérabilité est prise en compte. C'est juste après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg, au cours duquel ont été jugés un certain nombre de responsables, de dignitaires nazis. Et au cours du procès de Nuremberg, il y a un nouveau concept juridique qui a émergé, qui est le crime contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité, c'est une atteinte portée à quoi? Eh bien, la dignité humaine, justement. Mais avec cette idée que la dignité humaine, on peut lui porter atteinte, c'est-à-dire la malmener, mais on ne peut pas la retirer. Et donc, quand la Déclaration des droits de l'homme de 1948 formule ça, on est vraiment dans cette situation d'après la guerre, on est marqué par cette affaire de coup porté à la dignité d'un certain... milliers, de dizaines de milliers d'êtres humains, et on commence la déclaration comme ça, comme si la chose la plus précieuse dont il fallait prendre soin, c'est cette dignité humaine. Avec cette idée que voilà quelque chose qu'on ne peut pas faire disparaître. Alors qu'en est-il en fin de vie de la dignité? Et bien, pendant tout un temps, en tout cas, puis ma foi encore un peu aujourd'hui, c'est un mot qui est beaucoup invoqué, à la fois du côté d'une association qui se revendique comme étant militante en faveur de l'euthanasie, qui s'appelle l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. L'intitulé sous-entendant qu'il y aurait des façons de mourir qui ne soient pas dites. Le mot « dignité », on le retrouve aussi bien dans les lois françaises sur la fin de vie. Je n'avais pas du tout prévu de vous faire un petit mot là-dessus. On a deux lois françaises sur la fin de vie. La loi dite « Leonetti » de 2005, la loi de 2016, qui sont deux lois qui essayent de tenir une ligne de crête, une troisième voie entre deux extrêmes interdits. Ces deux extrêmes interdits, c'est d'un côté... l'obstination déraisonnable, ce que dans le langage courant on appelle souvent l'acharnement thérapeutique, et puis l'interdit de l'autre côté, c'est l'interdit de l'euthanasie. Et donc la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti, sont vraiment des lois en faveur des soins palliatifs, en faveur du développement des soins palliatifs, et tiennent cette ligne de crête entre deux extrêmes à éviter. Et si vous regardez, donc je vous ai juste mis deux phrases là de ces extraits de ces lois. Donc le médecin sauvegarde la dignité du mourant, le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée, sauvegarde la dignité du mourant. Donc au fond, que ce soit les militants en faveur de l'euthanasie, que ce soit les soins palliatifs, tout le monde semble d'accord sur l'importance du respect de la dignité. Donc on se dit, on pourrait s'arrêter là, finalement, là, pour la dignité, ça va. Sauf que ce qui se corse, c'est quand on pose la question, peut-on perdre sa dignité ? Alors d'habitude, je fais le test sur mes étudiants, hein, quand j'ai des étudiants en soins infirmiers ou des étudiants en médecine, mais je fais le test sur vous, après tout, qui dirait que oui, on peut perdre sa dignité ? Vous êtes catho, vous. Ah, si, si, ah, quand même. Ou alors, qui dit non, on ne peut pas perdre sa dignité ? Ah, mais en fait, il y a plein d'hésitants. Ah, mais c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Non, c'est bien, très bien. Ben, en fait, souvent, les étudiants, quand je commence un cours, un peu sur la dignité ou sur d'autres choses, je commence comme je l'ai fait avec la déclaration de 48. Donc, ils ont bien compris, c'est inhérent, ça peut pas se faire, tout ça. Puis après, je leur pose la question, peut-on perdre cette dignité ? Majoritairement, ils répondent oui. Alors, je leur dis, mais on vient pas de voir un truc, là ? Alors, du coup, ils sont un peu embarrassés. Et en fait, c'est très révélateur, c'est qu'en fait, il y a deux définitions de la dignité qui entraînent deux réponses différentes à cette question. Et très souvent, quand on s'écharpe sur le mot dignité, c'est qu'en fait, on entend des choses différentes, à la limite des choses presque pas vraiment opposées, mais en tout cas qui n'ont pas l'air de pouvoir être compatibles. Alors pour faire vite, il y a un sens de la dignité que j'appelle la dignité en tant que valeur. C'est celle qui est présente dans la déclaration de 48. La dignité comme valeur, elle se présente comme absolue, ou comme on l'a vu dans le texte de 48, inhérente à la personne humaine. Ce qui sous-entend que non seulement on ne peut pas la retirer, on ne peut pas l'enlever, mais en plus, elle ne varie pas en fonction de l'état de la personne. Quel que soit notre état physique, je peux par exemple être complètement dépendante pour les gestes de la vie ordinaire, quel que soit notre état psychique, on peut souffrir de maladies psychiques, quel que soit notre état mental, je peux être très fatiguée, on peut être atteint de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Quels que soient aussi les méfaits que j'ai pu commettre dans ma vie, la dignité comme valeur absolue reste, elle demeure. Je ne perds pas mon appartenance à l'humanité. Et cette appartenance, elle est absolue. Et dans ce sens-là, quand on va parler du respect de la dignité, respecter la dignité de quelqu'un, au fond, ça veut dire exactement respecter la personne, respecter son humanité, quelles que soient les circonstances. C'est simple, c'est clair. Oui, non. Mais il y a un autre, sens du mot dignité, que j'appelle la dignité comme sentiment, ou le sentiment de dignité. C'est si vous rencontrez, par exemple, une personne en fin de vie, ou une personne gravement malade, ou qui va vous dire « Mais regardez dans quel état je suis, j'ai plus de dignité. » Alors évidemment, une solution, c'est de dire « Mais pas du tout, la déclaration de 48, ou le philosophe Emmanuel Kant, à l'époque des Lumières, dit que votre dignité, vous ne la perdez pas. » Oui, mais il y a quelque chose à entendre, quand même. Ce que dit cette personne, c'est qu'elle a le sentiment... perd le sentiment d'être digne, ou elle perd le sentiment d'avoir de la valeur. Il y a peut-être quelque chose qui se joue comme ça. Et la dignité comme sentiment, elle se présente souvent comme relative ou subjective, c'est-à-dire chacun définit ce qu'il juge être sa dignité ou pas, et souvent par extension, si sa vie mérite d'être vécue ou pas. C'est quelqu'un qui va dire... Je ne peux plus faire les gestes de la vie quotidienne par moi. Je ne peux plus me laver moi-même, par exemple. Je ne me supporte pas dans cet état-là. Ben, peut-être que ma vie n'a plus de valeur. Ben, c'est des choses qu'on entend. Alors, ma proposition, mon hypothèse, c'est que peut-être pour être plus clair, ne pas confondre, ou en tout cas distinguer ces deux sens de la dignité, peut-être qu'on aurait intérêt qu'il serait plus clair d'utiliser un autre mot que le mot dignité pour la dignité comme sentiment, c'est le terme d'estime de soi. Et ça, je pense, tous ont fait l'expérience que notre estime de soi, elle peut varier, elle est sujette à variation. Prenez ne serait-ce que vos souvenirs de collège ou de lycée. On a tous le souvenir d'avoir eu une mauvaise note. Alors qu'on avait travaillé, par exemple. Ben voilà, là, l'estime de soi, elle en prend un coup. Ou bien, je sais pas, en cours de sport ou en compétition, vous terminez le dernier, l'avant-dernier, on n'est pas très fiers, tout ça. Voilà, puis en revanche, il suffit qu'au contrôle suivant, on ait plus bossé, voilà, la moyenne remonte, et en même temps que la moyenne remonte, notre estime de soi, elle remonte. Ou bien quand quelqu'un nous dit « Non mais ok, là, t'as pas bossé, mais tu es capable d'entendre ça de quelqu'un d'autre », ça fait aussi remonter notre estime de soi. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue du vocabulaire, on aurait peut-être intérêt à utiliser ça. Mais moi, j'ai pas de pouvoir sur le vocabulaire tel qu'il se diffuse dans nos conversations. Donc c'est un peu un vœu pieux. Mais en tout cas, je trouve que ça clarifie les choses d'avoir un mot pour chaque chose. Si je reviens juste comme ça, pour information, à cet avis numéro 139 du Comité consultatif national d'éthique qui, vous l'avez vu tout à l'heure, évacue la notion de dignité. Pourquoi il l'évacue ? Alors d'abord, il affirme, oui, la dignité comme notion intrinsèque à l'être humain, c'est vraiment très très important. On n'en dit pas de mal du tout, sauf qu'on observe que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sens-là du mot dignité. Cette position n'est pas universellement partagée, dit le texte. Et qu'est-ce qu'ils en concluent ? Enfin, ils en concluent, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas, la conséquence, c'est que le dilemme éthique qui caractérise la complexité des situations de fin de vie ne porte pas sur la question de la dignité. Alors on peut le regretter. Moi, ce que je regrette, c'est que cette évacuation d'une notion forte se fasse en deux phrases, c'est-à-dire que c'est peu argumenté, c'est peu construit, donc c'est pas solide. En revanche, c'est vrai qu'on constate que dans les débats aujourd'hui, ça n'est plus la notion de dignité qui est première. Quelle est la notion qui est première aujourd'hui ? La liberté. Et donc on va y venir dans un petit moment. Simplement, je vais faire une petite pique avant d'aller vers la liberté. Une petite pique à ce texte du Comité consultatif de sciences éthiques. Donc vous voyez, pouf, il dit, bon, la dignité comme inhérente, c'est très très bien comme concept, mais comme tout le monde n'est pas d'accord, on évacue. Mais plus loin dans le texte, il est fait appel deux fois à la notion de dignité comme relative ou subjective. Donc vous voyez, ils disent « Non, on ne va pas se servir de la dignité comme argument ». En fait, ils finissent par se servir de la dignité comme argument, mais la dignité subjective. Quoi. Voilà, donc ça c'est, puisqu'on est en Coupe du Monde de football, je peux dire que c'est un petit tacle au Comité consultatif national d'éthique, pour lequel j'ai vraiment estime par ailleurs. Alors, quand même, je vous disais tout à l'heure, quand il y a une personne qui vous dit « Mais regardez dans quel état je suis ». J'ai plus de dignité. Ce sentiment de perte de dignité, on l'entend, c'est un argument en faveur de l'euthanasie. Alors souvent, ce sentiment-là, cette perte d'estime de soi, quand est-ce que ça se manifeste ? Ça peut être quand ça touche l'apparence physique. Les gens vont parler de déchéance aussi. Ça touche beaucoup, justement, à la perte d'autonomie. Et on retrouve cette question de l'autonomie, de la liberté, que je vais développer après. C'est l'expérience de la dépendance. Souvent, c'est, pas toujours, mais souvent, c'est la manière dont on croit être vu par les autres. Donc souvent, c'est une question d'image. Pas que, je suis pas en train de dire que c'est juste ça. Mais en tout cas, c'est souvent des personnes qui font l'expérience d'un certain nombre de pertes, qui se cumulent dans une perte d'estime de soi. Pour autant, l'appartenance à l'humanité ne disparaît pas. Et du coup, ce sur quoi ça attire notre attention, c'est l'importance de la manière dont on entre en relation avec des personnes, entre guillemets, diminuées ou qui se vivent comme telles. Comment on va les regarder ? Ou comment, vous savez, cette petite phrase qu'on dit, quand quelqu'un dit « Ah, oh, mais regardez dans quel état je suis, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à manger ». J'en ai marre de la vie. Et souvent, on veut bien faire, on dit « Oh ben, comme je vous comprends. » Sauf que on veut manifester de la bienveillance, on veut manifester du soutien, sauf que cette petite phrase « comme je vous comprends », qu'est-ce qu'elle renvoie ? sans qu'on le veuille. Ben, elle renvoie à un assentiment, au sentiment, c'est mal dit. Enfin, elle fait comme si on disait « Ah ben oui, je suis bien d'accord avec vous, votre vie, elle ne mérite pas vraiment d'être vécue. » Alors qu'on cherche à dire le contraire, mais voyez. Donc c'est comment on va entrer en relation, comment on va soigner la relation, la manière dont on entre en relation. Donc peut-on perdre sa dignité ? À cette question, on peut répondre qu'on peut avoir le sentiment, l'impression de perdre sa dignité, mais que la dignité comme appartenance à l'humanité ne disparaît pas, et que peut-être on est invité à aller vers une conception dynamique, interrelationnelle de la dignité, où ce qui importe, c'est de redonner ou de soutenir chez les personnes leur estime de soi, leur sentiment de dignité. Puis je sais que souvent dans les auditoires, il y a des gens qui aiment bien les jolies citations, alors je vous en ai mis deux là. Une de Paul Ricoeur, donc, qui est un grand philosophe français. Vous voyez, il dit « Quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. » Et ce qui est dû à l'humain du seul fait qu'il est humain, c'est le respect. Le respect de cette appartenance à l'humanité que certains appellent la dignité. Et puis un collègue philosophe qui est à Nantes, Jacques Ricot, « Nul n'a le pouvoir de renoncer à cette dignité, car elle ne dépend ni de l'idée que l'on se fait de soi-même, ni du regard posé par autrui. » Dans l'absolu, quoi. Alors, comme vous le disiez, comme on le disait, le débat aujourd'hui, actuellement, il est beaucoup moins autour de la notion de dignité qu'autour de la notion de liberté. Et là, on a du travail, parce que c'est compliqué. Alors, pourquoi c'est l'importance, cette focale mise sur la notion de liberté ? Moi, je dis souvent qu'on est dans une société du « c'est mon choix ». Alors peut-être certains parmi vous ont connu l'émission à la télé qui s'appelait « C'est mon choix ». C'était, je ne sais plus comment s'appelle, la journaliste qui invitait des gens qui faisaient des trucs, pas possibles, quoi, des trucs hallucinants, des trucs tordus, des trucs du genre « je couche avec mon chien, j'ai les cheveux bleus ». C'est mon choix. Et le truc, c'était « c'est mon choix ». Et donc l'idée, c'était l'émission se terminait toujours par des grands applaudissements. Eh bien, cette personne, elle fait ça et c'est son choix. Donc cette valorisation un peu à la fois du côté atypique et qu'est-ce qu'on entend derrière, c'est que chacun construit sa propre vie comme il l'entend, indépendamment de la vie des autres. Alors c'était un peu ça le message sous-jacent de cette émission. Alors on est dans une société du « c'est mon choix ». Bon, il y a beaucoup de manières d'expliquer ça. Moi, je suis marquée par le fait que nos mentalités, qu'on le veuille ou non, sont façonnés par ce que j'appelle le modèle consumériste, c'est-à-dire l'habitude que nous avons de tout avoir à portée de main. Au fond, on va avoir tendance à se rapporter à nos vies sur le modèle du supermarché, ou maintenant encore plus sur le modèle d'Amazon, quoi. Un clic et c'est à ma disposition. Deux clics, allez, je vous le fais à deux clics. Donc ça façonne un rapport à la vie en général. On le subit sans trop s'en rendre compte. Alors même sans aller sur Internet, hein, vous savez, je raconte régulièrement l'expérience du vertige qui peut nous saisir, qui m'a saisi un jour au rayon de yaourt d'un supermarché. Vous visualisez ? Je devrais mesurer un jour, mais je ne sais pas, c'est sur des dizaines de mètres. En fait, à quoi bon, d'une certaine façon. Un jour, je suis arrivée devant ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Enfin, mais qu'est-ce que quoi ? Et vous voyez, c'est le truc, si moi je veux un yaourt light au lait de chèvre bio, la chèvre du Cantal ou la chèvre de Bretagne à la myrtille, ben, je peux le trouver. Sauf que le jour où je ne le trouve pas, je suis énervée, je suis agacée, et je peux me rendre compte que mon agacement est un peu exagéré. Mais en tout cas, cela pour dire que nous avons pris l'habitude que les choses soient à notre disposition, soient sous la main. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Heidegger qui dit que notre rapport au monde est façonné par la technique. Un peu ce que j'appelle la consommation, la technique, c'est d'avoir les choses sous la main, c'est-à-dire de pouvoir les maîtriser. Et donc nous avons tendance à être marqués par ça et avoir un rapport à notre propre vie sur ce modèle de la maîtrise. Je veux pouvoir maîtriser ma vie comme je maîtrise ma consommation de yaourt bio, au lait de chèvre, etc., etc. Donc on entend beaucoup cette formule « moi je veux être maître de mon destin ». Dans les débats sur la fin de vie, c'est ce genre de formule, vous allez l'entendre souvent. Ça, je passe. Et le mot par lequel on parle de cette liberté, c'est souvent le mot « autonomie ». Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de philo, c'est juste l'étymologie du mot « autonomie », ça vient du grec « auto »,« nomos ».« Auto », c'est soi-même, comme dans « automobile », ce mot « voir par soi-même », et « nomos », c'est la loi. Initialement, le mot « autonomie », il ne concerne pas les individus. Dans l'Antiquité, il concernait les cités grecques. Donc, une cité qui était autonome par rapport à une autre cité, c'était... Justement, elle ne dépendait pas des lois d'une autre. Personne ne lui imposait des lois. Donc une cité autonome, elle décidait par elle-même, c'est-à-dire ses citoyens décidaient par eux-mêmes des lois. À partir du XVIIIe siècle, notamment, le mot « autonomie », il commence à être attribué à l'individu. À être autonome, c'est pouvoir faire des choix de façon indépendante. Alors, Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, hein, c'est le siècle de la confiance en la raison humaine. C'est vraiment ce siècle-là, le siècle de l'éducation, le siècle de la démocratie. Et donc, pour Kant, c'est quoi être autonome? C'est être capable de faire des choix en suivant notre raison. Et suivre notre raison, ça veut dire aussi pour lui se libérer d'un certain nombre de choses. C'est se libérer de la contrainte que autrui pourrait exercer sur moi, donc autrui qui me dirait « fais ça, tu dois faire ça, il faut faire ça ». Mais jusque-là, notre époque peut suivre Kant. Mais Kant, il dit aussi qu'être vraiment autonome, donc décider selon la raison, c'est me libérer de la contrainte qu'exercent sur moi mes passions, mes plaisirs, mes tendances, mes intérêts propres. Et là, je pense que notre siècle, il n'est plus du tout d'accord avec ça. Et qu'au contraire, très souvent, ce qu'on entend dans le langage courant, ben, c'est mon choix, c'est je vais suivre mon plaisir et mon intérêt propre. Donc c'est intéressant, vous voyez comment un glissement de sens. Quoi. Au XIXe siècle, on a un philosophe anglais, John Stuart Mill, qui va vraiment lui définir l'autonomie comme choix indépendant. La liberté, la vraie autonomie, c'est lorsque je fais... C'est lorsque c'est moi-même qui décide de ce qui me concerne. C'est même, si on veut être un petit peu plus précis, c'est ce qu'on va appeler l'autodétermination. Je me détermine par moi-même, je dispose de moi-même. Donc il y a vraiment l'idée que c'est l'individu seul qui est apte à dire ce qui est bien pour lui. C'est que les autres n'ont pas à me dire ce qui est bien pour moi, l'État n'a pas à me dire ce qui est bien pour moi. Donc par exemple, John Stuart Mill... Les pubs dans le métro avec manger 5 fruits et légumes par jour, et dit non, l'État n'a pas à me dire ce que je dois manger. Donc il y a cette idée d'autodétermination, de contrôle de sa vie et de se libérer même des entraves de la société. Donc ça, en revanche, cette définition-là de l'autonomie, je pense que ça marque vraiment notre société. Et puis, une suggestion vers laquelle je vais aller, c'est qu'on a peut-être intérêt à parler d'une forme d'autonomie relationnelle, c'est-à-dire... dans l'interdépendance. Là, c'est déjà, j'ai déjà fini, là, c'est ça, j'ai fait mon temps. Vous m'avez fait peur. Ok.
20 minutes.
Cette autonomie comme choix indépendant, qui vraiment, je pense, est cette idée de la liberté qui est très répandue aujourd'hui, elle repose sur un présupposé. C'est que les choix que je ferai pour moi ne concernerait que moi et n'aurait de conséquences que pour moi. Ce qui me semble être un peu une illusion. J'aimais bien dire à mes étudiants, essayez de me trouver l'exemple d'une seule action humaine qui n'ait rien à voir avec les autres. L'action d'un individu qui n'ait aucun rapport avec les autres. Alors, souvent, les étudiants, ils ricanaient un peu, ils disaient, faire nos besoins, quoi. Je dis, bah non, tu vas pas te lever, là, comme ça, et faire pipi au milieu de tout le monde, quoi. justement, évidemment c'est naturel, mais c'est ô combien même marqué par la pudeur et donc par la culture et donc par la relation aux autres. Il confondait en fait s'isoler et être indépendant. En fait, toutes nos actions, elles sont façonnées par le fait qu'il y a d'autres personnes, qu'il existe d'autres personnes. Autrement dit, vous me suivez ? Autrement dit, j'ai besoin d'avoir des petits repères. Oui, justement, mon discours, il n'est pas indépendant de votre réceptivité. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ouais, notre état naturel humain, c'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance. J'aime bien parler de ça en empruntant une citation à un poète anglais qui s'appelle John Donne. Nul n'est une île. Vous voyez, l'autonomie comme indépendance par rapport aux autres, elle fait comme si chacun était isolé, comme si chacun était une île. Ben non, nous ne sommes pas des îles. Nous sommes justement plutôt du côté de l'interdépendance, c'est-à-dire que... Oui, je vous donne juste une illustration qui est pas très gaie, mais que je trouve très parlante, c'est le suicide, justement. Évidemment, une personne qui décide de mettre fin à ses jours, alors déjà les psychiatres ont discuté est-ce qu'elle est vraiment libre ou pas, mais même sans entrer dans ce débat-là, nous savons tous que l'acte que la personne va faire envers elle-même, évidemment, elle la concerne directement, cet acte la concerne directement. Mais nous savons tous que l'impact de son acte, il concerne beaucoup d'autres personnes. Ses proches, évidemment, sa famille, ses amis, mais même la société. Ses collègues au travail, par une chaîne comme ça. Donc voilà, une action que je fais pour moi-même et par moi-même, en fait, elle a des sources chez d'autres personnes et des répercussions sur d'autres personnes. Ouais, juste pour dire ça, je pense que je vous disais tout à l'heure que la société du « c'est mon choix », elle nous façonne dans l'idée que nous sommes maîtres de notre existence et que nous contrôlons notre existence. Or, c'est un peu le fantasme de toute puissance qui est derrière. Notre réalité humaine, de la même façon que nous ne sommes pas indépendants totalement, mais interdépendants, de la même façon, notre réalité humaine, ce n'est pas la toute-puissance, mais c'est plutôt la non-toute-puissance, c'est-à-dire la vulnérabilité. Donc je trouve qu'on a tout intérêt à penser l'autonomie avec la vulnérabilité. Alors, j'insiste là-dessus parce que, en 2016, donc, juste avant que soit promulguée la loi Claeys-Leonetti, sur la fin de vie, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a eu à nouveau plein de débats dans la société. À nouveau, il y avait les gens qui étaient pro-euthanasie, qui montaient au créneau, etc., etc. Et Jean Leonetti, donc, qui était député, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, enfin, quand même, il a réussi à faire voter la première loi qui porte son nom, à l'unanimité, enfin, je ne sais pas si c'est l'unanimité, mais enfin, vraiment, il a réussi à faire un truc extraordinaire. Donc, j'ai vraiment une grande admiration pour lui. Mais en 2016, une de ses façons de se positionner dans le débat, c'était de dire « Oui, alors aujourd'hui, dans le débat, il y a deux éthiques qui s'opposent, l'éthique de l'autonomie versus l'éthique de la vulnérabilité. » En gros, il disait « L'éthique de l'autonomie, c'est les gens qui revendiquent « c'est mon choix », c'est les gens qui sont pour l'euthanasie. L'éthique de la vulnérabilité, c'est les gens qui prennent soin, c'est les soins palliatifs. » Non ! On a tout à gagner à ne pas opposer la liberté et la vulnérabilité, mais à les penser ensemble. Nous sommes des êtres autonomes ou libres, mais notre autonomie n'est pas absolue. Nous sommes des personnes vulnérables, nous sommes dépendants pour bien des aspects de notre vie, même quand on est en bonne santé, mais nous avons de la liberté, mais nous avons de l'autonomie. Dans la relation de soins, dans la relation d'accompagnement, et même au niveau de la société, nous avons tout intérêt à penser les deux ensemble. Voilà, c'est ma revendication à propos de cette diapo-là. Et alors, juste pour aller vers la fin sur la question de la liberté, je me dis, là où on a vraiment... Il y a vraiment des enjeux. C'est, est-ce que la liberté, elle ne se définit... Est-ce que notre expérience de la liberté, elle ne se définit que par les choix que nous faisons par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Est-ce que l'autonomie ou l'autodétermination, comme je viens d'en parler, est-ce que c'est la seule définition de la liberté ou la seule facette de la liberté? Ben, je pense que non. Et du coup, je vais vous faire une proposition, mais du coup, vous voyez, quand on est dans les débats et que les gens vous disent « oui, mais c'est ma liberté, c'est mon choix », ben, oui, mais il y a peut-être d'autres façons de parler de la liberté que juste « c'est mon choix qui me concerne moi ». Et par exemple, la liberté, c'est aussi la capacité d'initiative, la capacité de créer des choses. Alors, je crois que c'est un père de l'Église, mais j'ai jamais réussi à remettre la main sur la citation, l'auteur de la citation, père de l'Église, je crois, qui écrivait ceci. Nous avons été créés créateurs. Alors ça, évidemment, c'est du point de vue de la foi qu'on dit, parce qu'on se réfère à Dieu créateur. Mais même indépendamment de la foi, dire que l'être humain est créateur et que, j'allais dire, sa dignité est là, enfin, en tout cas, ça... son humanité se donne à voir dans la liberté comme créativité, je pense que c'est un argument qu'on peut partager avec d'autres. Donc la liberté comme créativité, c'est notre capacité à faire advenir des choses, à commencer des choses. Alors la philosophe Hannah Arendt, qui s'inspire beaucoup de saint Augustin, quand elle réfléchit là-dessus, elle dit c'est aussi interrompre le cours des choses et faire quelque chose à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Là où la nature produit des cycles réguliers, ben l'être humain il se caractérise en faisant advenir des choses inattendues, des inventions, mais ça peut être ou des artistes, un peintre, un sculpteur, un cinéaste. Mais, pour vous donner une illustration, cette capacité à appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant, ben on peut la trouver, par exemple, chez une personne complètement dépendante, mais qui va dire quelque chose d'inattendu, qui va nous mettre en situation aussi de créer quelque chose pour prendre soin d'elle. Je vous donne un exemple rapidement. Un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Donc, tout le corps se paralyse progressivement, dont les poumons, enfin, c'est un des pires trucs, hein, franchement, ça... Et donc c'était un patient qui venait pour un troisième séjour de répit à Jeanne Garnier, donc l'équipe le connaissait bien. Il était régulièrement visité par ses deux filles, son épouse. Et puis à ce troisième séjour, son état se dégrade et il pouvait presque plus articuler. Il y avait juste quelques soignants qui arrivaient à comprendre ce qu'il disait. Et il dit, je sens bien que je vais mourir bientôt, et avant de mourir, j'aimerais bien... retrouver mon fils avec qui j'ai rompu depuis 20 ans. Alors là, stupéfaction dans le service, parce que personne ne savait qu'il avait un fils. Les filles disent, bah, on savait qu'il y avait un secret de famille, mais on ne savait pas quoi. L'épouse est très troublée, elle ne veut pas parler. Bon. Et en tout cas, vous voyez, cette parole, donc cet homme ne bouge plus. Hein, il cligne des yeux, il articule peine. Et cette parole, je veux retrouver... Pour moi, c'est une forme de cette liberté comme capacité d'initiative, parce que cette parole, elle va mettre tout le monde, enfin toute l'équipe, dans la situation de réagir, de chercher. C'est une autre forme de liberté que juste « c'est mon choix ». C'est la capacité d'ouvrir des possibles. Et ça, je pense que c'est quelque chose de capital quand on parle de liberté. Dans la relation de soins, quand on parle de liberté en fin de vie. Les soignants en soins palliatifs le disent beaucoup. Ils disent notre cadre de loi actuel, c'est-à-dire le fait que l'euthanasie soit interdite, ça nous oblige à la créativité. Ça nous oblige à chercher des chemins avec le patient. Ça nous oblige à ouvrir des choses possibles, mais dans un cadre. Je suis très frappée par ce discours qui dit le cadre ou les limites ne sont pas éprouvées comme quelque chose qui contraint, mais quelque chose qui ouvre à la créativité. Voilà une autre forme de liberté. Donc, comment ouvrir des possibles? Alors, à la maison médicale Jeanne Garnier, on raconte souvent l'histoire de Madame Jeanne Garnier quand elle était à Lyon, donc c'était une femme veuve au XIXe siècle, qui a pris soin des femmes malades qui étaient à la rue, enfin que les hôpitaux rejetaient parce qu'on ne pouvait plus les soigner, c'était les incurables. Et Madame Jeanne Garnier les a recueillis chez elle. Bon, après, il y a toute une histoire qui arrive jusqu'au 15e arrondissement, mais dans une des légendes des débuts de Madame Jeanne Garnier, on raconte que une de ses femmes lui dit, vraiment sur le point de mourir, lui dit, je voudrais quelque chose. Alors, bon, je raconte à ma façon, j'en rajoute un peu. Mais on peut imaginer que Jeanne Garnier se dit, oh là là, elle va me dire qu'elle a mal et qu'elle veut être soulagée. Et moi, j'ai pas les moyens. On n'avait pas les moyens médicaux de soulager la douleur à l'époque. Et en fait, cette femme dit, je voudrais une dernière fois manger des huîtres avec un bon vin blanc. Et alors, c'était l'hiver, c'était pas la saison des huîtres. Enfin, Jeanne Garnier fait tout Lyon. Non, c'était pas l'hiver. Je vois mes soeurs Xavier qui... Mon histoire n'est pas tout à fait exacte, mais bon, elles vous raconteront à la fois. En tout cas, tout ça pour dire que ce qu'elle fait, Jeanne Garnier, là, c'est... Ça ouvre des possibles, quoi. C'est prendre soin. Là, c'était... On ne pouvait pas soulager la douleur, mais on pouvait soulager autre chose en cherchant des huîtres et un bon petit vin blanc. Donc tout ça pour dire qu'il me semble que il y a un enjeu à penser la liberté comme créativité, pas seulement comme c'est mon choix. Il y a aussi un enjeu à penser une autonomie en relation, une autonomie en dialogue. C'est ensemble qu'on va ouvrir des possibles et donner du sens, autant que faire se peut, à la vie, dans un dialogue avec autrui. Pour finir sur la liberté, il me semble que peut-être on a affaire à deux modèles, de la même façon que tout à l'heure je vous disais, on a deux définitions de la dignité. Là, c'est un peu deux modèles, ce que j'appelle la liberté autonomie et puis la liberté créativité ou la liberté initiative. Donc d'un côté, elle est centrée sur l'autodétermination, c'est moi qui décide par moi-même et pour moi-même. De l'autre côté, on est dans une ouverture des possibles et on le fait ensemble et on accepte de l'incertitude là où, du côté de la liberté autonomie, on est plutôt dans le contrôle et la maîtrise. D'un côté, on a ce discours de l'indépendance. De l'autre côté, on reconnaît une forme d'interdépendance. On va valoriser la relation, on va chercher quelque chose du côté de la réciprocité. Autrement dit, je vais en bas de cette diapo, d'un côté, on est plutôt sur un modèle du contrat. Et de fait, si l'euthanasie passe, si le suicide assisté passe, on va être dans un contrat d'un patient avec un médecin ou avec une équipe médicale. Le patient va dire, voilà, je réponds aux critères, donc vous me devez ceci. Alors que du côté de ce que j'appelle la liberté créativité, on est plutôt sur le modèle de l'alliance, c'est-à-dire on cherche à construire un chemin en commun. Et donc pour terminer avec la notion de solidarité, je vais aller très vite là-dessus. Bon, là, il y a une diapo un peu dense, c'est juste des éléments de définition de la solidarité. Vous voyez, regardez simplement les deux mots que j'ai mis en rouge. Dans la solidarité, il y a cette notion d'interdépendance, justement, que je valorisais à partir de la liberté. Et il y a aussi la dimension d'engagement, et vous voyez, de dépendance réciproque. Donc je trouve que la solidarité, elle nous met sur ce double terrain de reconnaître qu'il y a de l'interdépendance entre nous, que ce qui arrive à une personne a des répercussions, même très lointaines, sur moi, sur mon univers. Donc il y a une interaction entre nos vies, même si on ne le voit pas directement. Et puis l'autre connotation de la solidarité, c'est justement cette dimension d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que moi, personnellement, je vais me sentir et me sentir co-responsable de ce qui arrive à certains de mes concitoyens, ou de façon plus lointaine, à d'autres humains sur la planète, et qu'est-ce que je peux faire, ou bien comment je peux me situer. C'est pas forcément du faire, ça peut être aussi de l'attention, ça peut être de se documenter, de s'informer. Comment je vais me situer, c'est-à-dire comment je vais donner quelque chose de moi dans cette relation d'interdépendance. Ça, c'est un petit peu le fond. Ah tiens, c'est bizarre, j'ai deux fois la même diapo là. Ah non, non, ça va, ça va. Et pour terminer, vous voyez que je vais revenir sur un des avis du Comité consultatif national d'éthique, pas le dernier, mais celui de 2018 où il y avait encore les trois termes qui cherchaient à articuler ou sonner dignité, autonomie, solidarité. Et cet avis en 2018 disait que le rôle de la solidarité, la fonction de la solidarité, c'est d'éviter que notre société ne conduise certaines personnes à un sentiment d'indignité. Ce que le texte formulait comme un devoir de solidarité. Et je trouve que le texte était assez clair. Là, vous voyez, je vous mets juste une petite citation. Le texte reconnaissait que les valeurs utilitaristes de notre société, alors utilitariste, c'est un peu en lien avec le concept d'autonomie comme autodétermination, c'est moi qui décide ce qui est utile, ce qui est dans mon intérêt, etc. Les valeurs utilitaristes de notre société pourraient engendrer un sentiment d'inutilité, voire d'indignité chez certaines personnes, au motif de leur perte d'indépendance ou d'autonomie due à une maladie grave ou tout simplement à l'âge avancé. Et ce que disait le texte, c'est que la solidarité, c'est justement de se sentir ensemble responsable, que personne n'ait un sentiment d'inutilité, que personne n'ait un sentiment d'indignité. Donc voilà, c'est la question qu'on peut se poser, c'est chacun à notre façon, dans nos relations proches ou dans nos relations plus lointaines, comment portons-nous cette solidarité, comment soutenons-nous l'estime de soi des personnes ou quelque chose de cet ordre-là ? Donc la solidarité, c'est ce qui nous fait à la fois éprouver et vouloir travailler à la solidité, du lien entre les humains. Vous voyez, autant l'autonomie comme autodétermination, elle met l'accent sur « je », c'est mon choix. Autant la solidarité, elle met l'accent sur le « nous ». La solidarité, c'est une façon de penser plus large que moi, mes intérêts, mon choix. La solidarité, c'est aussi ce que les soins palliatifs appellent volontiers une éthique du non-abandon. C'est-à-dire, c'est signifier à toute personne, et a fortiori à des personnes en état de fragilité, en état de handicap, en état de fin de vie, que quel que soit leur état, on ne les abandonnera pas. Vraiment, les soins palliatifs, ils se sont construits là-dessus. Et je trouve que, en s'étant construits là-dessus, les soins palliatifs, ils ont quelque chose à dire à la société au-delà de la question de la fin de vie. Et puis, il y a cette idée que nous sommes responsables les uns des autres. Et puis, je m'autorise un tout petit clin d'œil à mes origines. Ah, pardon, c'était pas ça, voilà. Les plus anciens d'entre nous se souviendront que dans les années 80, en Pologne, il y a eu un mouvement qui était une façon un mouvement politique, enfin, à travers un syndicat qui s'appelait, le syndicat s'appelait Solidarité, Solidarność en polonais, et le slogan de ce syndicat c'était il n'y a pas de solidarité sans liberté, il n'y a pas de liberté, pardon, sans solidarité, il y a ma wolność qui passe Solidarność. Et je trouve que, voilà, je mets de côté l'histoire, mais je trouve que cette formule, il n'y a pas de liberté sans solidarité, elle nous instruit aussi pour ce débat en fin de vie. Merci pour votre attention, et je pense qu'on va ouvrir la discussion.
Merci beaucoup pour votre intervention, qui était à la fois complète, et merci d'avoir été concise aussi, ce qui nous permet d'avoir encore un petit peu de temps pour ouvrir un temps de questions. Donc c'est très simple, si vous avez des questions, vous levez la main, le micro vient vers vous, et il n'y a aucune question bête. Voilà. Qui a une question ?
Une réaction, une demande de précision ?
Alors, une question, une réaction.
Moi j'ai une question sur le fait de la dignité intrinsèque. Est-ce qu'elle n'est pas un peu mise à mal par une nouvelle idéologie qui sort, qui est l'animalisme, et qui a tendance un petit peu à faire tomber l'homme de sa prééminence et justement de le faire perdre sa dignité intrinsèque?
Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça fait perdre sa dignité à l'être humain, mais en tout cas, je ne pense pas que ça... Ça ne fait pas disparaître cette idée de dignité en tant qu'appartenance à l'humanité. Ce que ça vient questionner, c'est cette valeur que communément on attribue comme supérieure à l'être humain par rapport aux autres êtres vivants. Oui, ça c'est questionné, ça c'est quelque chose qui est questionné. Mais je trouve qu'après tout, ça rebat les cartes aussi, ça nous permet de nous demander qu'est-ce que ça voudrait dire que l'humain est supérieur aux autres êtres vivants, et que peut-être c'est pas une bonne façon de poser la question, de la poser en termes de supériorité. Alors moi, je suis pas très branchée de ce côté-là, mais je trouve que la question devant laquelle ça nous met, c'est qu'est-ce que nous enseignent les autres êtres vivants sur nous-mêmes ? Je vous la laisse comme ça.
Donc c'est une question pour répondre à une question, c'est ça ?
Ouais, on va me dire que je suis de spiritualité ignatienne, j'assume.
Bravo. Alors d'autres questions, réactions ? N'ayez pas.
Oui, moi j'aimerais savoir où vous mettez la souffrance dans ce débat. Parce que la liberté, l'autonomie, on va dire, on est peut-être d'accord, mais jusqu'où on va dans la souffrance ? Parce qu'elle n'est pas éliminée, la souffrance.
Non, elle n'est pas éliminée. Ouais. Est-ce que vous avez une question plus précise dans...
Qu'est-ce que je vais faire le jour où je souffrirai tellement que je me dirai, bon, est-ce que je suis libre de choisir quoi que ce soit ? Ou est-ce que je demande, enfin voilà... On se reprend aux origines chrétiennes. Le Christ lui-même a eu du mal, donc. Voilà.
Ouais, ok. Deux éléments de réponse. Trois éléments de réponse. Un élément de réponse qui est plutôt médical, c'est que aujourd'hui. Contrairement à l'époque de Madame Jeanne Garnier, on a beaucoup progressé dans le soulagement de la douleur et d'un certain nombre de souffrances. On constate beaucoup dans les unités de soins palliatifs que lorsqu'il y a des personnes qui arrivent avec une demande d'euthanasie, qui disent « mais j'en peux plus, mettez un terme à tout ça », lorsqu'on soulage leur douleur ou leur souffrance, la demande d'euthanasie disparaît. Ça, c'est une corrélation qui est très documentée. Après, toutes les demandes d'euthanasie ne disparaissent pas, même si la souffrance est soulagée. Là, il y a eu une enquête, notamment un article scientifique qui a été publié par plusieurs personnes de Jeanne Garnier. Les résultats, c'est que... il subsiste 0,27% de demandes d'euthanasie des personnes qui sont arrivées avec une demande d'euthanasie. Il y en a 0,27% qui demeurent. C'est pas beaucoup. Après, ça existe. Et c'est plutôt par conviction plutôt que par douleur. Deuxièmement, toute douleur, toute souffrance ne peut pas être soulagée. On ne peut pas se leurrer non plus, on ne peut pas non plus se mettre dans une position de toute puissance en disant on va tout soulager. Reste que la loi de 2016 a mis en valeur une possibilité qui est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire, pour une personne en fin de vie, en cas de souffrance réfractaire, c'est-à-dire de souffrance qui résiste à tous les traitements normaux, on peut endormir la personne pour qu'elle n'éprouve pas sa douleur ou sa souffrance. Donc ça, c'est la possibilité qui a été donnée par la loi de 2016. Donc cette sédation, c'est pas de l'euthanasie, c'est on endort la personne en sachant, elle et nous, que... alors attendez, juste avant, il faut que je précise, en fait, il y a plein de sortes de sédations. C'est-à-dire on peut endormir quelqu'un pour 24 heures parce que la personne a mal. Puis au bout de 24 heures, on fait le point avec elle, est-ce que ça va mieux, est-ce que vous voulez continuer à dormir, est-ce que... voilà. Mais en toute fin de vie, dans une grande précarité, voilà, il y a cette personne qui dit, moi je veux plus, je sais que je vais mourir bientôt, je ne veux plus me sentir souffrir, endormez-moi. C'est ça qu'on appelle la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc ça existe. Après, deuxième chose, ce que vous dites du point de vue de la foi chrétienne, c'est qu'est-ce qu'on fait, enfin, si je comprends bien, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos souffrances, sachant que nous croyons en un Dieu qui s'est exposé jusque dans la chair souffrante, quoi. Le christianisme, contrairement à la réputation qu'on lui fait porter, n'est pas doloriste. C'est-à-dire qu'il ne défend pas la douleur pour la douleur, la souffrance pour la souffrance. Il y a des très beaux textes de Pape Pie XII, notamment, là-dessus, qui fait le point dans des conférences aux médecins, hein, qui dit « Non mais faites tout pour soulager les patients ». Après, il y a des gens qui disent... voilà, des croyants qui disent « Je souffre et peut-être que je peux offrir ma souffrance ». Mais ça, c'est vraiment quelque chose que les gens vivent dans leur discernement avec Dieu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut réclamer de qui que ce soit. On peut pas enjoindre à quelqu'un d'offrir sa souffrance au nom de quelque chose. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Il y a encore un autre cas de figure que je n'ai pas évoqué, mais peut-être vous allez l'évoquer vous-même, allez-y.
Non, non, ça répond en partie. Il y a quand même un moment où déjà on se met dans un cadre français.
Oui, tout à fait.
L'hôpital fonctionne, même s'il y a des soins palliatifs, voilà, on est d'accord qu'il faut améliorer le sujet, mais... En rêvant un peu, il y en aura partout. La question se posera peut-être pas en France, mais dans l'absolu, la question se pose de gens qui souffrent et voilà, qui sont confrontés à la question, qui souffrent d'ailleurs physiquement ou mentalement. Hein,
c'est tout à fait.
La souffrance sociale, on veut dire, ça existe. Voilà, et là, la question du suicide, de l'euthanasie, peut se poser.
Alors, si elle se pose pour des gens en souffrance sociale, là justement, enfin, la notion de solidarité, c'est la première réponse à aller chercher. Enfin, les données à ça. Quoi. Je vois, au Canada, actuellement, il y a eu une loi sur l'euthanasie assez récente, et on en arrive à des extrêmes où, récemment, il y avait la situation d'un homme qui ne parvenait plus à payer son loyer et qui savait qu'il allait se retrouver à la rue, et il a fait une demande d'euthanasie. Moi, je trouve ça... C'est scandaleux, c'est insensé. Ou alors là, on a des situations de vétérans, de personnes qui ont vécu des guerres et qui sont en état de stress post-traumatique et à qui la médecine propose l'euthanasie comme thérapie. Bon, c'est des extrêmes, hein. Je ne dis pas que tout le Canada fait ça. Mais donc là, il y a quand même un enjeu vraiment de solidarité au sens fort. C'est aussi comment un État... un système hospitalier se donne les moyens de proposer des soulagements autres que d'en finir avec la vie, quoi.
Quand vous parlez de sédation profonde, moi je lis un peu euthanasie déjà. Ça me semble une solution, si elle est acceptée et légale, qui est un très grand pas. Qui pourrait éviter l'euthanasie, justement. Ça me semble très proche.
Alors, j'ai pas très bien compris votre question.
Non, mais je trouve que la sédation profonde est...
Oui. Elle existe, hein.
Oui, c'est ça.
C'est dans la loi de 2016, et avant la loi, de toute façon, c'est des choses qui pouvaient se pratiquer. Et ce n'est pas l'euthanasie.
Et ce n'est pas de l'euthanasie, c'est ça qui me semble un peu plus surprenant, parce que ça y ressemble terriblement.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que vraiment, ce n'est pas la même chose.
Mais je vous pose la question.
Moi, ça m'interroge aussi.
Ça vous interroge aussi. Alors, Leonetti, dont je disais quand même du bien tout à l'heure, hein, il avait une formule, alors attendez, faut pas que je me trouve, faut que je me souvienne, il disait, la sédation, c'est endormir avant de mourir, pour ne pas souffrir. C'est-à-dire, il y a une action médicale dont le but, c'est quoi? Le but, c'est le soulagement par le moyen de l'endormissement. L'euthanasie, le but, c'est faire mourir. Et la mise en place d'un endormissement, d'une sédation, en tant que telle, ne fait pas mourir. Quand on met en place une sédation et qu'on sait que la personne n'en a plus pour longtemps, la cause de la mort de la personne, ce n'est pas la sédation. C'est sa maladie. C'est simple. Il faut être très au clair là-dessus. Il y a eu, alors je vais être un peu dur là, mais il y a eu en milieu catho des discours qui ont diffusé une confusion entre sédation profonde et continue et euthanasie. Et ça, je trouve que c'était vraiment pas aidant pour les soins palliatifs. Vous voyez, je suis énervée ce truc-là. C'est vraiment... Des fois, il faut penser un peu à ce qu'on va provoquer. Quand... Ne prenez pas en photo quand je m'énerve. Des fois, il faut réfléchir un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on provoque quand on lutte sans s'informer, quoi. Ah, je me suis énervée, voilà. Enfin, non, mais monsieur, pour revenir, je me désénerve, mais est-ce que c'est plus clair pour vous ?
Oui, c'est plus clair, mais je trouve, si vous voulez, que la loi sur l'euthanasie n'a plus lieu d'être. Il me semble, à partir du moment où on a quand même toutes ces possibilités-là.
Alors, effectivement, c'est ce qu'on dit, et pour le coup, c'est ce sur quoi l'Église catholique insiste beaucoup, en disant, en France, on a cette chance, comme disait votre voisin derrière, on est vraiment bien équipés, on est équipé en matériel, on est équipé en compétences. Après, il y a une situation sur laquelle l'avis numéro 139 du Comité consultatif national d'éthique met l'accent. C'est ce que cet avis appelle les situations de décès à moyen terme. C'est-à-dire que la possibilité d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, elle concerne les personnes qui sont vraiment en toute fin de vie. La loi dit « dont le décès va survenir à court terme ». Alors on discute de ce que c'est le court terme, c'est quelques jours, quelques semaines. Or, il y a la situation des personnes, par exemple atteintes de maladies neurodégénératives, on a évoqué la maladie de Charcot tout à l'heure, des personnes pour qui la survenue de la mort, elle n'est pas proche. Mais des personnes qui disent « je souffre, je ne veux pas de cette vie-là ». Et là, effectivement, si comme elles ne sont pas en fin de vie, si on met en place une sédation, ça veut dire ça dure des semaines, des mois, puisque ça ne fait pas mourir la sédation, justement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pour ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on a pour ces personnes-là ? Et ça, c'est une vraie question. Alors là, il me semble que la réflexion, en tout cas dans ce texte du Comité consultatif national d'éthique, ça n'est pas creusé, c'est... Le comité ne dit pas de quel arsenal on dispose pour accompagner ce type de souffrances qui souvent, justement, sont des souffrances de perception de la déchéance, quoi, de perception de la dépendance. Donc là, on est vraiment sur un terrain très, très délicat. Et je pense que les personnes qui sont les plus aptes à en parler, ce sont, au fond, les patients eux-mêmes. Et récemment, à la maison médicale Jeanne Garnier, il y avait... c'était une visite de la ministre, je crois. C'était Agnès... comment elle s'appelle ? Firmin Le Bodo, qui est passée. Et il y avait justement un monsieur atteint de la maladie de Charcot qui a dit, il y a la ministre qui vient, je veux lui parler. Et qui a témoigné en disant, bon, je crois que le film est sur le site de la maison médicale, non, l'interview du monsieur. Oui. Et ce monsieur disait, il témoignait en disant, quand j'ai appris quelle maladie j'avais, je me suis renseignée sur la Suisse. Alors en Suisse, on peut avoir le suicide assisté. Enfin, il dit, j'ai pensé à l'euthanasie. Enfin, c'était vraiment mon premier réflexe. Et il dit, depuis que je suis ici, en fait, je fais ce que j'ai jamais fait, j'ai du temps. J'ai du temps avec mes proches, j'ai du temps avec ma famille, j'ai du temps avec mes amis. Et ce temps, je veux le vivre. Voilà, ça c'est une personne qui a eu ses ressources intérieures, à la fois et sans doute des ressources dans son entourage, pour décider de vivre sa maladie. Ces ressources, on ne peut pas exiger de tout un chacun qu'il les ait. Il y a des personnes qui sont atteintes de la même maladie et qui ne disent pas que ce temps, elles veulent le vivre. Donc là, le type d'accompagnement à mettre en place, il est vraiment très, très délicat. Enfin, c'est du point de dentelle, quoi. C'est, Dans le film que vous verrez la semaine prochaine, il y a une scène justement là-dessus qui m'a énormément marquée. On voit arriver un tout jeune patient, un gars qui doit avoir à peine 30 ans, qui atteint de la maladie de Charcot. Et on voit comment le médecin, le chef de service, qui à l'époque était Daniel Dérouville, comment il entre dans la chambre et comment il va entrer en contact avec ce jeune homme. Et vous le verrez la semaine prochaine, donc moi je n'aurai pas les bons mots, je ne vais pas avoir les vrais mots, mais là je vous fais du teaser là. Ah ben, je vais m'arrêter là d'ailleurs, tiens. Non, il a une façon de... Le médecin entre et, si je me souviens bien, en gros, il lui dit, bon, voilà, donc vous êtes là dans une maison de soins palliatifs, voilà, on sait que vous avez pris contact avec la Suisse, enfin, vous avez fait des démarches de ce côté-là. Et le médecin lui dit, en gros, bon, nous, ici, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. On ne va pas vous dire qu'il ne faut pas aller en Suisse ou qu'il faut y aller. Mais on est là... pour le temps que vous allez passer avec nous, pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Et bien ça, je trouve ça génial comme accompagnement. Vous voyez, il n'y a pas de jugement sur « ben non, on fait pas le suivi assisté, c'est pas bien d'aller en Suisse. Hein. » Et puis on est du côté de cette ouverture des possibles dans le cadre qui est donné en commun. Mais vous verrez, il dit ça beaucoup mieux que moi, il y a une façon de s'asseoir près du patient qui est... Donc voilà, c'est vraiment la question de l'accompagnement. Moi, je n'ai pas de solution toute faite là-dessus. Personne n'en a, je crois. Mais sinon, la confiance que justement, il y a un chemin qui peut s'inventer dans la relation avec chaque patient.
Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou réactions ?
Je vais être un peu brutale, mais est-ce que aussi favoriser l'euthanasie, ce ne serait pas aussi pour des raisons économiques? Parce que là, vous venez de nous parler d'un accompagnement très personnalisé, donc qui demande du personnel, des personnes très bien formées, et j'imagine que c'est aussi un enjeu.
Oui, je pense que ce sera, en France, ce ne sera jamais dit de façon explicite, encore que... Enfin, y a vraiment un enjeu et du coup un gros risque. Le risque, c'est aussi de façonner les mentalités de cette façon-là. C'est-à-dire, quand les personnes qui militent en faveur de l'euthanasie disent « Mais vous qui êtes contre, on ne vous enlève rien. Ou vous, les soins palliatifs, on ne vous enlève rien. C'est notre liberté, mais on vous laisse votre liberté à vous. » En gros, nous, notre liberté, c'est de mourir quand on veut. Vous, votre liberté, c'est d'agoniser. Si c'est votre liberté, faites-le. Enfin bon, là, mais c'est pour dire que, pour revenir au sujet que vous disiez, un des grands risques, selon moi, d'une loi ou d'une dépénalisation sur l'euthanasie, c'est qu'en fait, ça ne nous laisse pas libres. C'est que, d'une certaine façon, ça contraint tout un chacun en état de maladie grave, ou en état de vieillissement, ça contraint tout un chacun à se poser la question, finalement, peut-être que je coûte trop cher, peut-être que ma vie est inutile, peut-être qu'il vaudrait mieux, même pour mes enfants, mes proches, que ça cesse. Donc oui, il y a une forme de contrainte qui pèse sur nos libertés, à l'inverse de ce que disent les défenseurs de l'euthanasie, je pense. Et que cette contrainte, elle peut se ressentir en termes économiques, oui.
Alors,
c'est la toute-puissance de l'économie, dit madame.
Je vous donne le micro.
Je disais que j'étais impressionnée par la puissance de l'économie dans ce genre de débat. C'est de la folie furieuse, quoi, je veux dire. Où est-ce dans cette histoire?
Bon, en fait, l'argument économique n'est pas invoqué en France. Non.
Il n'est pas...
C'est pour ça que je dis que
il
ça...
Parce que on sait déjà qu'on élimine les enfants porteurs de handicap avant la naissance parce que ça va coûter cher à la société. Hein, sous des prétextes de soulager les parents, etc., il y a aussi le contexte économique. Et ça, on a du mal à nous le cacher quand même. Et je pense que à partir de quand on va décider qu'un vieillard coûte trop cher à la société, on va pouvoir le supprimer, etc. C'est hyper grave.
En ouais, je pense qu'en France, on ne dira jamais ça. Enfin, jamais. On ne dira pas ça à cette étape-ci du débat, en tout cas. Mmh. Et bon, mais justement, peut-être que ça peut être un... dans le débat pour amener un peu de... comment dire ça, un peu de piment dans le débat. Peut-être qu'on peut sortir ce genre d'argument, justement parce qu'ils ne seront pas officiels. Mais c'est délicat, parce que l'hôpital va mal, en fait. On est en train de débattre de l'euthanasie, du suicide assisté, mais en fait, c'est l'hôpital tout entier qui va mal. Et c'est dans l'hôpital tout entier qu'on aura intérêt à mettre des fous. Finalement, la vraie question, elle est là. Enfin, ça fait un peu bizarre de focaliser un débat sur la fin de vie, alors que... projecteur, il faudrait le mettre sur la réforme de l'hôpital en entier, quoi. Enfin, moi, je dis, il n'y a qu'à Faucon, hein, ça, pour le coup, j'ai aucune capacité sur ce sujet-là, mais...
Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je voulais dire que j'ai travaillé un an à Jeanne Carnier, à l'atelier d'art thérapie, et j'ai rencontré personne qui m'a dit qu'elle voulait l'euthanasie.
Souvent on dit, enfin moi je constate, c'est beaucoup une question de bien portant. Il y a une super étude, il y a un article dans la revue Études, il y a un article qui date il y a quelques années de Guillaume Cuchet, un historien, qui montre très bien comment la revendication d'euthanasie, c'est la revendication des baby-boomers. C'est-à-dire, je ne me souviens plus de tous les arguments qu'il donne, mais il y a... Un, c'est la première génération qui n'a pas vu de décès depuis son enfance. C'est la première génération pour qui les premiers morts qu'ils verront, ce sont leurs parents. Donc ça veut dire que c'est une génération qui passe des dizaines et des dizaines d'années de vie sans être confrontée à la mort. Enfin, en général, évidemment, majoritairement. Donc la mort est quelque chose de lointain et de redouté. C'est la génération qui a acquis plein de liberté, les années 70, etc., etc., donc qui est marquée par cette revendication de la liberté personnelle, individuelle, et puis il donne encore une autre raison, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que, oui, les gens qui militent en faveur de l'euthanasie, c'est aussi une question de génération. Et puis, je voulais dire quelque chose d'autre, je commence à fatiguer, pardon. Ah oui, voilà, merci Gabrielle. Oui, c'est souvent une revendication de bien portant, c'est-à-dire de personnes qui redoutent la dépendance, la déchéance, la perte, les pertes. Projette du coup, enfin, en voyant des personnes malades ou handicapées, qui projettent qu'elles ne voudraient, je ne voudrais pas être dans cet état-là. Donc là, je trouve qu'on a aussi à veiller, bon, vous allez me dire, c'est très catho ça aussi, mais veiller à qu'est-ce qu'on fait de notre imagination, veiller à qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, c'est-à-dire comment on les met aussi, notre imagination et nos émotions, au service de la solidarité plutôt qu'au service de nos peurs, quoi. De nos peurs qui vont nous retirer sur nous-mêmes. Quoi.
Et j'aimerais qu'on revienne sur la notion de dignité. Qu'est-ce qui fonde cette dignité et quelle est la responsabilité de l'Église, parce qu'elle, elle fonde cette responsabilité, cette dignité sur... sa dignité d'enfant de Dieu et de fils de Dieu qui reçoit la vie et qui attend d'avoir la vie en plénitude. Il y a donc un témoignage de foi qui est notre responsabilité. Alors comment est-ce que... D'abord, parlons-en. Et ensuite, quelle place est-ce que ça peut laisser à d'autres qui ne sont pas croyants, mais est-ce qu'ils peuvent entendre notre témoignage?
C'est notre foi. C'est notre foi. Je vais être franche. Si vous amenez ça aujourd'hui dans un débat avec des militants pro-euthanasie, ça n'aura qu'un effet repoussoir. Parce qu'ils vont vous dire, ah mais ça c'est privé, c'est votre truc à vous ça. Donc oui, allez-y, débrouillez-vous, mais ça n'empiétera absolument pas sur nos arguments. Donc ce que je veux dire, c'est notre foi et ça nous fait vivre. Mais je... Enfin, contredisez-moi, hein, moi je demande que ça, contredites-moi, enfin, bref, portez-moi la contradiction. Je ne pense pas que ce soit opératoire aujourd'hui dans la situation actuelle de la France, a fortiori dans la situation de l'Église en France aujourd'hui. Je suis désolée, mais je ne pense pas que ce soit opératoire dans les débats. Pour nous, c'est opératoire.
Ça peut être un argument, tout de même. Un argument même qui n'est pas mis, entre guillemets, pas prononcé au nom de l'Église, au nom des catholiques, etc. La dignité qui est intrinsèque, qui est donc inhérente à la nature humaine, on l'enlève également à celui qui euthanasie. Qui va provoquer l'euthanasie, c'est son...
Alors, on l'enlève.
Mais c'est pas mal.
On l'enlève. Non, on enlève la dignité inhérente.
Non, mais attendez. Je pense qu'un docteur, un médecin, qui doit pratiquer l'euthanasie... Je n'ai pas l'habitude. Celui qui doit pratiquer l'euthanasie sur un patient a une dignité en tant que médecin et puis en tant qu'homme.
Ouais.
Et justement, on leur laisse. Enfin, il devient un moyen.
Ouais.
De.
Oui, si, si, allez-y. Oui, c'est très juste. Ouais.
Un moyen pour justement pratiquer une mort. Voilà, c'est l'acte délibéré de donner la mort à un patient à sa demande réitérée.
Ouais.
Ça reste une demande du patient, mais c'est quand même un acte de donner la mort. Oui. Un médecin, c'est, je pense, de lui enlever sa dignité de médecin, d'une part. Et d'autre part, ça enlève la dignité du patient également. Parce que, bien souvent, sa demande n'est pas toujours justifiée. Enfin,
et donc, côté catho,
ben, je veux dire que ça... En dehors même en dehors même de la... Je ne sais pas faire.
Si, vous faites bien, vous faites bien.
Oui, je veux bien, mais...
On vous entend bien, là, allez-y.
En dehors de la question religieuse,
ouais.
Hein, de gâteau, de
cité,
ouais. De chrétienté, etc., et même du fait que nous sommes fils de Dieu, ce que je n'enlève pas, eh bien, il y a aussi dans... En tant qu'homme, un médecin peut très bien dire je ne veux pas être l'instrument de mort d'un patient.
Oui, et beaucoup le disent.
Et je me cache derrière ma dignité humaine. Au nom de la dignité
humaine. Non, honnêtement, ils ne vont pas dire ça au nom de la dignité humaine. Ils vont le dire au nom du serment d'Hippocrate, par exemple.
Oui, mais enfin là, c'est... Mais si la loi est là...
Si la loi est là, il y aura une clause de conscience.
Un médecin dans la salle.
Pensez-vous qu'ils qui vont faire l'erreur de garder la clause de conscience comme ils l'ont enlevée. Enfin,
Attention, ça chauffe. Alors, ça commence à chauffer.
Moi, je pense que la clause de conscience, c'est un moindre mal, mais quand on en est là, c'est qu'on a déjà perdu la guerre.
Ouais.
Mais est-ce que le fait déjà d'avoir passé l'IVG dans la Constitution, ça n'a pas fait déjà sauter en de fait la clause de conscience chez les médecins, parce que quand c'est constitutionnel, eh bien, on ne peut pas s'y opposer. C'est le droit de la personne. Tout, et du coup, la clause de conscience, de fait, elle pourrait passer à l'AS. Et je pense qu'elle ne va pas... Je ne suis pas sûre qu'on ait une clause de conscience si la loi contre l'euthanasie passe, parce qu'ils ne feront pas la même erreur qu'avec le...
Si, je pense que si. On n'en est pas encore là.
J'avais une question annexe quand même. C'était aussi les directives anticipées qui peuvent paraître une très bonne intention, mais dans laquelle je pense qu'il y a un piège de bien portant, content ou bien portant. Alors, n'oublions qu'il y a quand même une grande plasticité de l'humain.
Absolument.
Dans la souffrance. Ouais. Et beaucoup de résilience. Et ça, on ne peut pas l'imaginer quand on est bien portant. Et je pense que ces directives anticipées, c'est un vrai piège. Voilà.
Alors, en fait, je pense que ça a été promu justement pour montrer qu'on donnait de la place à la volonté personnelle. Ça a été un des moyens. Alors, il y a les directives anticipées telles qu'en parle la loi. Et puis, il y a ce qui se passe, vous devez le savoir, il y a ce qui se passe dans la relation, justement, dans l'alliance thérapeutique, où de plus en plus, on va mettre en avant le dialogue anticipé. C'est-à-dire, parce que les directives anticipées... Alors déjà, qui en a écrit dans la salle? Bravo. Moi aussi, mais personne ne sait où elles sont, donc ça ne joue pas. Ouais, super. Donc vous voyez, il y en a parmi vous, mais c'est minoritaire. Donc déjà, il y a ça. L'autre chose qu'on dit beaucoup, c'est effectivement qu'est-ce qu'on met dans ces directives anticipées, qu'est-ce qu'on peut mettre quand on est bien portant. Alors en plus, la HAS a fait un truc avec des cases à cocher, ou les gens qui disent « je veux pas d'obstination déraisonnable », mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc au fond, enfin, comme médecin, vous pouvez démentir ce que je vais vous proposer, mais il me semble que les directives anticipées, elles deviennent efficaces, elles deviennent opératoires. En fait, quand on est porteur d'un type de maladie et qu'avec son médecin, on peut discuter des différentes thérapeutiques qui peuvent être mises en place et qu'on souhaite ou pas. Ouais, typiquement, justement, dans la maladie de Charcot, est-ce qu'on veut avoir une trachéotomie ou pas? Est-ce qu'on veut jusqu'où on veut la ventilation non-invasive, invasive, etc. Quand on connaît l'évolution d'une maladie, on peut jouer sur qu'est-ce qu'on souhaite. Et le qu'est-ce que je souhaite ou pas, ça évolue. Comment ?
Et encore,
bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler non plus et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les directives anticipées écrites in abstracto, c'est bien parce que ça rassure soit la personne, soit l'institution médicale. Je ne sais pas. Mais que tout se joue, je pense, dans le dialogue. Et il y a tout un mouvement qui vient des pays anglo-saxons qui, justement, développe ce qui s'appelle vraiment le Advanced Care Planning, mais à travers ça, le dialogue anticipé. Et ça, je pense que c'est bien. Enfin, tout ce qui creuse l'alliance thérapeutique, tout ce qui conforte l'alliance thérapeutique, ça me paraît très important.
Merci, Agatha. Merci à tous pour vos questions nombreuses et riches. En guise de conclusion, je me proposais de vous redonner 5 phrases entendues ce soir qui me semblaient intéressantes et pouvoir nous aider à réfléchir plus loin. Il y a bien des pertes dont il faut faire le deuil, mais l'appartenance à l'humanité ne disparaît pas pour autant. Notre état naturel humain n'est pas l'indépendance, mais l'interdépendance. On a tout intérêt à penser l'autonomie avec la vulnérabilité. Pensons la liberté comme initiative pour ouvrir des possibles. Et enfin, pas de liberté sans solidarité. Et alors surtout, ce que je voulais faire pour conclure, c'était remercier Agatha. Merci Agatha d'avoir
bravé
le froid, pris 3 ou 4 RER pour arriver jusqu'à
là. Non, pas exagéré.
Merci surtout de nous avoir éclairé sur ces concepts et donner envie de les creuser. Pour les creuser, vous savez qu'il vous reste au moins, en tout cas à Saint-Christophe, 2 soirées. La soirée de mercredi prochain, le 7 décembre, avec la projection du film et des questions et des échanges autour. Et la soirée du 14 décembre, avec une table ronde et différents intervenants et témoignages. Pour cette table ronde, justement, on vous propose de prendre des petits papiers qui sont à la sortie, à côté d'une urne, et de marquer les questions éventuelles que vous vous posez et que vous aimeriez pouvoir entendre aborder lors de la dernière table ronde. Donc certaines ont déjà été posées ici. S'il reste encore quelques petites choses qui vous tracassent ou que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à les inscrire sur les petits papiers au fond. Et pour continuer à éclairer votre chemin, il y a aussi une table avec des livres à vendre au fond de la salle. Merci beaucoup, Agatha.
Merci à vous. Merci, bonne suite. Ouais, j'ai anticipé ça, merci.
Thank you.